/ Stammtisch, toute l'actu du HCBN proposée par Ajour, RJB et le Journal du Jura.
Hello messieurs, Full House ce soir, vous êtes nombreux à la Stammtisch. Je vous offre un plat de hareng à l'aneth. C'est une spécialité lettonne que m'a ramené Rickard dans sa valise, le nouvel étranger biennois. Qu'est-ce que je vous sers d'autre avec ça, Marco?
Eh ben moi, je prends un gingerino, vu que j'ai aussi le passeport italien. Alors, j'ai quand même un peu mes racines italiennes.
Parfait, on en a en stock. Thomas?
Pour moi, une grande bière.
C'est noté, Cyril.
Comme on va jouer contre Ajoie vendredi, un café d'Amassine.
Parfait, Laurent?
Bah oui, un match contre Ajoie. Alors, on va prendre un petit verre de Clos des Cantons, le vin jurassien. Bon, c'est pas top, hein, c'est pas une petite arvine. Hein.
C'est noté, j'arrive dans 5. La Stammtisch, saison 4, épisode 4. Bienvenue à vous toutes et tous. Votre podcast sur l'actualité du HCBN vous propose aujourd'hui à nouveau de parler de la crise actuelle, mais on vous propose aujourd'hui aussi de faire plus ample connaissance avec deux membres du coaching staff. Avant de débuter, avant de vous les présenter, je vous rappelle juste que la Stammtisch, c'est toutes les deux semaines, diffusion sur RJB le jeudi à 20h et disponible également sur toutes les plateformes de podcast. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite clochette sur Spotify, à noter le podcast, à le commenter, c'est toujours un plaisir. Et si vous voulez participer, posez vous-même vos questions, ben suivez-nous notamment sur notre page Instagram nommée la Stammtisch. Voilà, tout est dit. Vous l'aviez peut-être compris, aujourd'hui, on a deux invités, deux membres donc du coaching staff, Thomas Zamboni, Marco Streit, bienvenue.
Merci.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va, Thomas?
Ça va bien, et toi?
Ça va très bien, merci beaucoup. La Stammtisch, c'est évidemment toujours à l'aile gauche, Cyril Pache, journaliste à Sports Center, et à l'aile droite, Laurent McKleissel, j'ai cru comprendre, McKleissel dorénavant, le rédacteur en chef du Journal du Jura. Bonjour messieurs.
Ciao Lennon.
Salut tout le monde.
Thomas, Marco, c'est la première fois qu'on vous reçoit dans notre podcast, donc on est obligé de faire une petite présentation rapide. Thomas Zamboni, tu es né en 1987, tu as donc 36 ans, tu es Saint-Gallois. Adolescent, tu as suivi une formation de menuisier chez Keller AG à Zuberwangen. T'as d'ailleurs réussi les examens avec la note de 5,1. Bien joué. C'est une information que je tiens du 5-Galler Tagblatt du 4 juillet 2007. Ça remonte un peu. T'as joué toi-même au hockey. C'était à Ville, c'était aussi à Meinisberg. T'as étudié le sport à Macolin, puis t'as occupé divers rôles dans le mouvement junior du HCBN. Depuis 2014, tu fais partie des assistants au sein de la première équipe. Tu t'occupes de plein de choses. Tu me l'as dit toi-même lors de la dernière interview qu'on a fait ensemble. T'as un peu tout fait. La vidéo, tu fais aussi les entraînements hors glace, les entraînements avec les blessés. Cette saison, tu fais les situations spéciales, powerplay, boxplay. Bref, tu fais plein de choses. Tout est juste dans ma description.
Que une chose, après ça que tu as dit, je suis 50 ans. Pas 36.
C'est,
long,
c'est correct. Très bien, merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce qu'on doit savoir quelque chose en plus sur toi?
C'est une grande question. Pour moi, non, je suis à bien pendant les derniers 12 ans, 13 ans. Je crois que c'est mon 10e saison au staff du staff au première équipe. Et j'ai toujours dit qu'on doit gagner une fois, mais on verra. On n'est pas assez là pour le moment. On était prêt la saison passée, mais c'est pas encore fini cette saison.
C'est pas encore fini. Pour que ce soit clair pour les auditeurs et auditrices, concrètement, cette saison, quel est ton rôle? De quoi tu t'occupes?
Ouais, c'est facile de dire que je suis coach assistant, deuxième coach assistant, et toutes les autres choses, c'est au détail. Je crois pas qu'on a une staff qui est le exact même deuxième assistant que moi. On est plus petit, mais pour moi c'est bien parce que j'ai beaucoup de responsabilités. Je suis fully intégré au staff pour le moment et ça me plaît.
T'es de plus en plus intégré d'ailleurs cette année avec les nouveaux coachs. T'es encore plus proche de la glace.
J'étais aussi proche avec Antti. C'est un petit peu spécial pour le moment parce que, comme je dis, je fais le special teams un peu plus au box play pour le moment. C'est dans un niveau assez bien dans mon vieux. Et ça, c'est une petite chose avec l'équipe, avec les joueurs. Je suis au plus au détail, aux communications, mais j'étais aussi intégré bien avec Antti et Oli. Alors là, au niveau de ça, ça n'a pas changé.
Sur le site web, il y a toujours marqué « Vidéo coach ». C'est toujours ton job. L'analyse vidéo, c'est toi.
Ouais, c'est quoi le vidéo coach? Tous les assistants, tous les chefs, le coach chef, il fait du vidéo. C'est que le vidéo coach, c'est lui qui est pas vers la bande pendant le match. Il est en haut pour regarder les vidéos plus en détail. Mais il y a aussi des staff pour le moment. Le deuxième assistant qui est vers la bande, il a du iPad, il voit aussi du vidéo. Alors, c'est quoi le vidéo coach? C'est une nombre. On a une head coach, une coach assistant, une goalie coach. Et alors, une vidéo coach, c'est plus simple pour tous les autres à côté. Mais pour moi, c'est à la fin, c'est égal.
Par exemple, si on prend un exemple comme le match de mardi contre Zurich, quand il y a une possibilité d'un hors-jeu sur un but, c'est toi qui dois donner le feu vert. C'est un peu ça aussi ton travail. Hein. Peut-être qu'on y reviendra.
Ouais, on y reviendra, pas, effectivement. On y reviendra en détail. Mais c'est ton job, ça.
Ouais, pendant le match, c'est le job de moi.
T'es en contact avec l'oreillette pour...
Avec Juha. Ouais, exact.
Ok, très bien. Est-ce que Marco, il y a quelque chose à dire en plus sur Thomas? Quelque chose que les gens doivent savoir?
Mais écoute, non, hein, non, non. Il y a tous, t'as tous dit qu'il faut dire sur lui. Hein.
Ouais. Très bien. Alors, place à ta présentation, Marco. Streit, tu es né en 1975, tu fêteras en décembre ton 48e anniversaire. Tu es bernois, tu viens de Könitz, mais tu l'as déjà dit, tu es binational, suisse et italien. Adolescent, tu as suivi une formation d'installateur sanitaire et de ferblantier. Tu as joué au hockey, ça je pense que tout le monde le sait, en tant que gardien, comme ton père, comme ton petit frère, Flavio. Tes modèles, tu le disais il y a 20 ans dans une interview, c'était Dominique Hasek et Martin Brodeur. Chez des adultes, tu as notamment gardé la cage en Suisse de Langnau, Genève, Rapperswil et Bienne. Tu as aussi joué un peu en France, en Ligue Magnus et en Italie. Tu es entraîneur des gardiens depuis 2013 à Bienne et ta page Wikipédia est disponible en français, en allemand et en arabe égyptien. Voilà, Marco.
Magnifique.
Je te l'annonce, tu peux aller vérifier.
Mais pas en italien alors.
Pas en italien apparemment, non. Est-ce que tout est juste dans ma description?
Ouais, je pense que c'est un peu ça, ouais.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Non, juste que ma mère, elle n'a jamais fait le gardien. C'est vraiment la seule personne en famille qui a jamais fait le gardien, hein. Ouais, quand même.
Et à côté du hockey, tu travailles toujours sur des casques, des graphismes de casques de gardien. Tu fais toujours ça?
Oui, je fais toujours ça. Ouais, c'est un studio à Berne avec, je dis mon chef, mais c'est plutôt un ami. On est deux et puis voilà, on fait toujours les peintures pour les masques de gardien. Ouais, avec airbrush et tout ça. Mmh. Non.
T'es donc le responsable des gardiens à l'entraînement, on arrive à s'imaginer. Pendant un match, c'est quoi ton rôle? Juste analyser leur performance et faire un feedback ou il y a d'autres choses?
Non, c'est plutôt vraiment ça. Analyser leur performance, peut-être des fois aussi voir déjà dans le match s'il y a quelque chose pendant le match qui ne joue pas vraiment, mais normalement c'est quelque chose qu'on sait avant. S'il y a quelqu'un qui a petite blessure ou quelque chose comme ça, on doit déjà décider avant le match si on le joue ou on joue pas. Donc voilà, et après c'est surtout après le match, ouais, c'est pour discuter puis analyser. Et puis voir qu'est-ce qu'il y avait le gardien, comme qu'est-ce qu'il a vu lui. Et puis moi, j'ajoute mes choses. Et puis voilà, on doit continuer.
C'est toi qui choisis si dans les buts, ce sera Jørgen ou Harry pour tel match?
Non, on discute toujours ensemble en staff. Donc ça aussi, c'est un peu la même direction comme a dit Thomas avec le vidéo. Il y a tout le monde qui discute et puis on a un plan pour une semaine. Mais après, ça peut changer. Hein. D'un jour à l'autre, ça peut changer. Mais voilà, ça fait partie du job du gardien.
Et cette saison, il n'y a pas vraiment de numéro 1. On est plutôt sur 1A, Harry, 1B, Jørgen. C'est un peu ça.
C'est un peu ça, oui. Voilà, c'est pas facile, mais de l'autre côté, c'est un problème de luxe pour nous, c'est clair.
Le but, c'est d'éviter au maximum les back-to-back que le même gardien joue vendredi, samedi.
Oui, ça, c'était un peu un plan. Je pense qu'on y tient, plus ou moins, parce que ouais, vendredi, samedi, c'est dur. Et puis, avec la phase qu'on a maintenant, malheureusement, peut-être encore un peu plus dur pour le gardien que d'habitude. Et puis, si on a deux gardiens comme ça, on peut aussi se permettre de faire jouer un ou l'autre vendredi, samedi.
Très bien. Est-ce que Thomas, tu veux ajouter quelque chose sur Marco? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur Marco Streit?
Il est un gardien, c'est tout. Non, c'est assez bien toujours avec lui. On se connaît pendant 12-13 ans. Ça suffit. Non, c'est vraiment une bonne relationship. Ouais, c'est tout.
Entre, c'est quoi, installateur sanitaire, tu as dit
Et ferblantier.
Et ferblantier avec un menuisier. Vous avez prévu d'avoir un petit business dans la construction. Ça ne fonctionne pas dans le hockey. C'est mal parti, hein, cette saison. Hein.
Ouais, tu peux demander encore après 2 semaines, je ne sais pas. Non, mais...
Je vous disais en présentant le podcast, avant qu'on commence l'enregistrement, que c'était un mixte entre sérieux et légèreté. On va aller maintenant en plein dans le sérieux. On va parler du match de mardi soir face à Zurich. Désolé Thomas, ça va pas durer très longtemps. Le match face à Zurich d'abord et ensuite la situation globale. Alors le match face à Zurich, il y a Francesco qui nous demande justement via notre page Instagram de la Stammtisch, comment c'est possible de donner le but, le 1-1, mardi soir? Comment c'est possible d'accorder ce but à Zurich? Alors, on a publié 2 articles chez nous sur ajour.ch sur ce fameux but. J'ai appelé Stéphane Rochette cet après-midi, l'ancien arbitre, actuel consultant sur MySports. Pour lui, pour son analyse, le but, il doit être annulé pour 2 raisons. Selon lui, il y avait hors-jeu et il y avait obstruction sur le gardien. Alors, de nombreuses personnes, dont les arbitres, ne partagent pas cet avis, évidemment. Thomas, toi qui es donc le vidéo coach lors de cette rencontre, ton point de vue sur cette action? Il y avait hors-jeu et obstruction, selon toi?
Oui, alors au début, c'était pas facile parce qu'on a les deux situations. Alors normalement, on n'a pas de temps pour voir qu'une situation. Maintenant, on a eu 2. Et on a vu assez vite qu'il y a eu une push de Radkep au Bodenmann vers le gardien, et on a vu que pendant les autres situations, autres matchs, autres ligues, c'était toujours le but va compter.
Ouais.
Alors ça, c'était au première chose dans la tête. Le deuxième fois, pour moi, c'était la même chose. J'étais 200% sûr que c'est offside, alors pas de but. Après le match, on a discuté avec le chef, une de supervisors au referee. Il était là et il m'a dit que au moment que Bodeman ou au moment que le puck va dans le zone, Bodeman, il a pas touché le puck. Il a revenir de toucher le puck que l'autre joueur était déjà sorti la zone.
Ouais, Cyrus était sorti pendant ce
exact,
temps.
Exact, exact. Et au niveau de ça, je compris, mais ouais, c'est encore difficile parce que au niveau de jeu, moi comme une arbitre, si je vois une situation comme ça, je dis offside.
C'est l'avis aussi de Stéphane Rochette qui dit « Ok, il n'avait pas le puck sur la palette, mais il était en train de dribbler, donc il était entre guillemets en possession du puck, en contrôle du puck, donc hors-jeu. » Cyril, pour toi, cette situation litigieuse, hors-jeu, pas hors-jeu?
Vous avez besoin de moi quand même ce soir ou...
Oui,
mais... Sinon, moi je rentre, hein, y a pas de souci.
Non, ton avis est bien vu.
Non, il faut dire tout de suite.
Pour toi, il n'y avait pas hors-jeu?
Alors, je suis pas très bon pour juger des hors-jeux. Bien sûr, sur les images qu'on a vues rapidement à l'écran, ça me donnait l'impression qu'il y avait un hors-jeu. Je pense que oui. Moi, ce qui m'a surtout surpris, c'est que les juges de ligne ont fait à peu près 8 secondes pour dire que non, c'est bon, il y a pas hors-jeu, quoi. En général, ils prennent quand même le temps de regarder un petit moment l'image. Là, ils avaient l'air d'être convaincus qu'il n'y avait pas hors-jeu. Bon, donc voilà, je leur fais confiance sur ce coup-là. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est quand même l'obstruction. Alors oui, bien sûr, il y a Radgeb pousse le joueur. Mais je trouve que c'est un peu facile de jamais siffler d'obstruction quand il y a un contact du défenseur, parce que forcément, quand un attaquant arrive avec de la vitesse et fonce au but, le défenseur, il a qu'une chose à faire, c'est d'essayer d'avoir un contact avec l'attaquant. Et puis pour moi, voilà, que ce soit volontaire ou pas, il y a quand même un gros contact avec le gardien. Le gardien a aucune chance. Enfin, il est complètement à côté de la cage, donc il a aucune chance de faire un arrêt. Donc moi, c'est un peu plus ça qui me choque, qu'un but soit accordé malgré une grosse obstruction. Même si, oui, le défenseur a poussé un peu ou beaucoup ou moyennement l'attaquant sur le but. Voilà. J'arrête. Je m'arrête là.
Juste une fois, une chose. C'est, pour moi, je suis au même que Cyril, parce que ce que j'ai dit, que c'est que les décisions que la Ligue a fait, c'était toujours pour l'attaquant. Et pour moi, c'est vrai, c'est faute. Parce qu'on a deux questions. Oui, c'est le défenseur qui a fait le contact, c'est juste. Mais est-ce que les attaquants, il a fait tout pour
éviter le gardien.
Exact. Et pour moi, c'est vraiment... Non, c'est non. C'était l'obstruction de Bodeman de aller vers Seteri. Pour moi, c'était clair. Mais les décisions qu'ils ont faites les derniers ans et les derniers matchs, c'était toujours contre l'équipe défensive.
Ouais. On est d'accord, tu as droit à un seul coach challenge, tu ne peux pas demander de vérifier les deux.
Non, c'est le Rex, c'est que un. Et nous, on était pendant les 10 ou 25 ans, on était 200% sûr que c'est hors-jeu. Alors, on a décidé que parce que je savoir que, ouais, le obstruction du gardien, ça peut être 50-40, 50-50, 60-40, 50-50. Et pour moi, c'était facile au moment. Mais, ouais, voilà.
Marco, t'es juste à côté de Thomas pendant les matchs. Tu aides dans ces situations-là?
Oui, on discute vite. Qu'est-ce qu'il y avait? Et puis, on essaye de prendre une décision et puis la transmettre à Juha. Et puis, à la fin, c'est les coachs en bas aussi qui décident. Mais voilà, il y a peu de temps, hein. Il y a très peu de temps. Déjà pour analyser, des fois, c'est aussi pas facile parce que les images qu'on a avec les vidéos, ouais, c'est pas top, hein. Cette fois, on était vraiment sûr qu'il y avait hors-jeu. Et puis, la situation avec Seteri, je suis d'accord avec Thomas. Dans le passé, on avait beaucoup de situations où on pensait que c'est obstruction. Puis, à la fin, on a pris 2 minutes parce qu'on a pris la challenge. Et puis, cette fois, c'était peut-être une situation 50-50. Mais je suis d'accord. Le joueur Bodenman, il le descend, il le sort, quoi. Il le sort du but, hein. Donc, voilà. Ma foi, mais ça fait partie du jeu d'aujourd'hui, hein, qu'on a avec le règlement et avec les vidéos et tout ça.
Toujours Itzo, toujours sur Instagram, il demande si c'est la même qualité d'image entre vous, tout en haut, dans la tribune, et l'arbitre qui est lui tout en bas dans la cabine de chronométrage. C'est les mêmes images que vous avez à disposition?
Normalement, oui. Une chose qui... Peut-être les arbitres ont des images avec des frames plus courts.
OK.
Donc, peut-être moi, j'ai des frames qui sont peut-être, ouais, je sais pas, comme descripté. Je sais pas si tu comprends.
Oui, comme toi, ouais, tu as seconde après seconde et eux, ils ont des plus petites séquences.
Exact.
OK, très bien. Le match face à Zurich. Pardon, tu voulais ajouter quelque chose, Marco?
Ouais, peut-être qu'il me semble qu'ils ont un écran assez petit. Ouais. Quand ils vont là dans le bureau là, vite voir, ils ont un écran très petit et puis ça peut-être aussi c'est pas facile pour eux.
Effectivement. Et donc ils ont décidé d'accepter ce but. C'était le 1 partout face à Zurich. Ce match-là face à Zurich, c'était aussi l'incroyable but de Rayala, le 2-1 inscrit une seconde avant la deuxième sirène. Marco, un but de grande classe de Tony Rayala. Est-ce que le gardien adverse a aussi une part de responsabilité à ton avis?
Ouais, je pense quand même qu'il a aussi une part de responsabilité. C'est quand même pas tous les jours qu'on voit ces buts-là. Et puis c'est clair, il y a depuis quelques ans un peu une technique spéciale au poteau qu'il y a pas mal de gardiens qui font ça, d'aller à genoux déjà assez rapidement, surtout pour éviter des jeux à raglasse. Mais voilà, après, il y a un trou en haut. Mais ouais, je pense qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt pour ce shoot, mais il était magnifique, quoi.
Toi, tu l'aurais pas pris, hein, ce but. Hein. T'aurais pas
non, mais
ça.
Moi, je... quand je jouais, on restait debout. Hein.
Le match face à Zurich, c'était aussi Robin Grossmann au centre. C'est l'heure de notre chronique Happy Hour, interview enregistrée juste après la fin du match avec donc Robin Grossmann. Happy Hour. Robin, c'était ton 900e match en Liga ce soir déjà, félicitations. Et tu l'as disputé en tant qu'attaquant, comment tu l'as vécu ce match-là?
Merci beaucoup. Maintenant, je vais continuer avec 900 matchs au centre encore. Non, non. C'est un... Oui, j'étais nerveux toute la journée. Parce que oui, c'est une nouveau position avec des face-offs, avec son offensif, tous les chemins sont différents. Et, oui, j'ai beaucoup réfléchi pendant la journée. Et, oui, c'était dur.
Tu disais à mes confrères juste avant, justement, c'était dur, tu as beaucoup patiné. On patine plus qu'en tant que défenseur quand on est centre.
Oui, elle est différente. Et aussi, c'est pas ma position normale. C'est clair. Je connais pas le chemin correct d'un centre. Et pour cette raison, j'étais dans la mauvaise position des fois. Et, comme ça, tu dois patiner plus que normal, ouais.
Mais avec Davos, même avec l'équipe de Suisse, t'avais déjà évolué en attaque, mais en tant qu'ailier.
Oui, ailier. Et après, centre, c'est tout différent avec les face-offs et tout ça. Oui, c'est compliqué.
Explique-nous d'où vient cette décision et comment tu l'as appris. À quel moment on t'a dit, Robin, tu joues au centre?
J'étais au vestiaire dimanche. Il m'a dit, oui, peut-être tu peux jouer au centre. Et après, lundi et mardi, j'ai fait l'entraînement sur la glace avec Tani et Matteo Reinhardt au centre. Oui. Ce soir, il m'a dit « Oui, tu joues au centre. Ah, » ouais. Oh, non, pas ce matin, pas ce soir, mais oui.
J'espère que c'est la dernière fois ou pourquoi pas continuer encore un deux matchs si besoin à cause des blessés?
Oui, t'as vu notre line-up aujourd'hui? Luca Conti, il est aussi blessé. Alors, je pense que je vais rester au centre.
Voilà, on était tous au match autour de cette table. Laurent, Cyril, vous avez aimé le match de Robin Grossmann au centre?
Ah, moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai trouvé qu'il s'en est bien sorti. Bon, après, c'est vrai qu'on a un autre regard. Hein. On a peut-être moins d'attentes. On n'attendra pas du Gaëtan Haas, d'un joueur de combien, 37, 38 ans, hein, je ne sais plus. 36 ans, qui joue au centre. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Il a même fait 2-3 petites choses, 2-3 petites passes. Ça, c'est sympa. Bon, il y a des positions, des fois, bien joué avec 3 défenseurs. Hein. Il est tellement qui bien joué avec 3 défenseurs. Mais c'est, on va dire que c'est original. Hein, ce qui me surprend plutôt, c'est de prendre ce genre de décision alors qu'on a un joueur comme Elvis Schlepfer qui a un centre. Pourquoi on se dit pas, on donne cette chance à un jeune, on le pousse, on essaie d'y faire confiance. Allez, vas-y, maintenant, c'est à toi, t'es dans le troisième bloc, tu y vas. Et puis, on va prendre un défenseur qui fait une bonne saison défensive. Peut-être ça, je comprends moins au niveau de la gestion au niveau des ressources humaines. Après, au niveau sportif, ça tient la route, hein. On l'a vu sur la glace. Je sais pas ce que t'en penses, Cyril. Toi qui étais au match aussi.
Alors, moi, je suis pas du tout de ton avis. Alors, Robin s'en est très bien sorti, hein, pour dire que ça faisait 899 matchs qu'il avait plus joué au centre. Mais moi, je trouve que c'est vraiment c'est n'importe quoi. Je comprends pas qu'un coach fasse ça. Et je pense que c'est aussi se foutre de la gueule des autres attaquants quand tu laisses, justement, Elvis Schlepfer, qui a, si je me trompe pas, qui a quand même joué au centre par le passé. Il y a, qui c'est qu'il y avait encore? Matteo Reinhardt, je me souviens de lui en junior. C'est un centre de formation, il me semble, si je me trompe pas. Il y a des étrangers que tu pourrais mettre au centre. J'imagine que Olofsson, on peut s'attendre qu'un joueur comme ça puisse jouer au centre. Même chose pour d'autres joueurs qui ont plus d'expérience. Même Boukart, le nouveau Letton, à la limite, on peut lui demander avant à lui, est-ce que tu peux jouer au centre? Oui, va gagner quelques face-off. Je pense que Grossman, évidemment, il n'a pas dû gagner un face-off du match. Donc, non, je ne pense pas.
Il en a gagné un sur Malguine.
Ouais, bah alors c'est vrai. Bon, ok. Moi, je comprends pas ce genre de décision et je pense que c'est aussi dangereux de la part d'un coach de commencer à faire des fantaisies pareilles dans une équipe qui va pas bien, quoi. Voilà.
Explication.
Désolé Laurent si je suis pas du même avis.
Non, mais sur le fond, oui. Après, je suis moins catégorique parce que Grossman, il m'a plu là au centre.
Explication du coaching staff, du coup.
C'est ta décision, Thomas. C'est ton idée.
On a une staff, on n'est pas une one man show. Non, alors je vais dire que une chose et c'est pas, je vais dire rien contre un joueur, je vais dire un chose ou deux choses au niveau de plus pour Grossman. C'était à la fin, c'était deux points importants. Le point un, c'est le mindset défensif qu'on a eu. Savoir que contre Zurich, on a besoin d'une troisième ligne, une troisième ligne centre qui est vraiment au mindset plus défensif. Et la deuxième chose, que Grossman, il peut patiner. Il peut patiner vraiment, vraiment comme une centre qui est en attaque, en défense, en attaque, en défense, en attaque, en défense. Et ça, à la fin, c'était les deux points plus importants.
Mais donc, c'était une décision pour Robin Grossman et pas contre Elvis Schlepfer.
Exact.
Ça marche. C'est noté.
Non, je suis d'accord avec les arguments. Je suis d'accord avec les arguments de Thomas, mais je pense que on a eu beaucoup de chance que Denis Malguin a fait un tout petit match hier, quoi. Voilà. Parce que quand Denis Malguin se trouve contre Robin Grossman, que j'adore beaucoup, je suis d'accord qu'il patine très bien, qu'il est bon défensivement, mais si tu joues un contre un les deux centres ensemble. Heureusement que Malguin n'a pas fait un bon match hier.
On a parlé des actions litigieuses, on a parlé de Robin Grossman au centre. Il y avait un événement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que ça contre Zurich mardi soir. C'était la découverte de la nouvelle coupe de cheveux de Noah Delémont. C'est le retour de l'Happy Hour, interview avec Noah Delémont.
Happy Hour.
Noah Delémont, cheveux courts, pourquoi cette nouvelle coupe de cheveux?
Ouais, écoute, fallait changer quelque chose et puis j'y pensais déjà depuis quelques temps de changer et puis quand je suis allé un peu sur internet puis j'ai regardé les highlights de Cyril Pache, je me suis dit je vais me faire la même coupe que lui, du coup je suis chez le coiffeur et puis j'ai montré une photo de Cyril et puis j'ai dit je veux la même coupe, puis c'est ce que ça a donné, quoi.
Satisfait du résultat?
Ouais, satisfait. J'espère que le principal intéressé sera d'accord avec ce résultat puis qu'il trouvera ça aussi beau, parce que j'ai quand même pris exemple sur lui, quoi.
Des réactions dans le vestiaire ou dans ton entourage?
Très, très drôle, très drôle. Je pense que ça a mis de la légèreté dans le vestiaire. J'avais dit à personne, alors j'ai gardé l'effet de surprise. Et puis quand je suis arrivé et puis qu'ils me voyaient sans cheveux, quoi, il y a beaucoup qui ont rigolé. Et puis ouais, ça, c'était un sujet de discussion pendant bien un jour. Et puis ouais, on a bien rigolé là-dessus.
Cyril, tu approuves cette coupe de cheveux?
Alors, je suis encore bouleversé aujourd'hui. Non, j'avoue que ça il la porte bien, ça il va bien, c'est vrai. Mais quand même, je suis bouleversé parce que c'était quand même une grande partie du joueur préféré de l'Achtamtich, hein. Bon, faut quand même le dire. C'était ses longs cheveux, ses passes un peu folles, ses passes en back-end à travers, enfin, toutes les passes que les coachs détestent. Il les faisait quand il avait les longs cheveux. Puis maintenant qu'il a les cheveux coupés, on voit que mardi contre Zurich, j'ai vu des passes de 2 mètres, des passes en arrière, des passes. Enfin, la magie a un peu disparu, quoi. Donc j'espère que ça va revenir avec la pousse des cheveux, quoi.
Thomas Marco, vous aimez la nouvelle coupe de cheveux de votre défenseur? C'est un sujet
alors,
important.
Alors moi, je suis un petit peu stolz,
fier,
parce que j'ai commencé de travailler de ça avec lui et son frère Quentin pendant 10 ans. Alors moi, je suis vraiment fier que j'ai. Pour moi, je dis que ouais, c'est à la fin, c'était moi. C'était que moi. Moi, j'ai réussi mon but. Merci.
Marco, la plus belle coupe de cheveux du vestiaire, elle est pour qui? Elle est pour Stampfli, pour Radgeb, maintenant que c'est plus Noah?
Bah, disons qu'il y en a quelques-uns qui ont peut-être pas forcément une coupe de cheveux. Hein, ils ont... y en a encore des cheveux ou il n'y en a pas, mais voilà. Non, ben à la fin, c'est égal, mais voilà. En fait, que Thomas, il a réussi son but, on est tout contents.
Il y a une question sérieuse de Dylan sur la page Insta de la Stammtisch. Quand est-ce que Delémont va jouer en powerplay? C'est un joueur plus offensif que Grossman ou Poca, selon lui. Quand est-ce qu'il va jouer en powerplay, Noah Delémont, cette saison?
Maintenant qu'il a coupé les cheveux, normalement, tu devrais le faire jouer en powerplay, hein, Thomas.
Voilà, il a donné la réponse lui-même. Non, mais il a déjà joué en powerplay. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut évoluer de chaque semaine à l'autre. Et puis, ouais, des fois, peut-être, c'est aussi bien de voilà, changer quelque chose, comme changer la coupure des cheveux, hein, je sais pas.
Thomas, toi, tu décides plus le box-play que le power-play, tu disais avant, dans les équipes
Oui, c'est spéciales. Les deux choses. Moi, je vais décider comment, et à la fin, c'est le coaching staff, c'est qui est capable de faire ça. Et oui, Noah, c'est, pour nous, c'est encore une candidat qui peut jouer là. Au moment, c'est ouais, peut-être un petit peu plus les big guys qui doit prendre le responsabilité et peut-être encore là pour Grossman et pas contre les autres.
Et le match contre Zurich, c'était aussi le premier du nouveau donc joueur letton, l'attaquant Rickards. Comment on dit son nom de famille? On a dit Bukarts.
Bukarts.
C'est quoi son surnom?
Bookie.
On va l'appeler Bookie. C'était le premier match de Bookie. Il s'en est bien sorti. C'était un bon premier match.
Il a commencé bien. Il a eu un bon shoot de côté. Mm-hmm. Pour moi, c'était bien. Il a bloqué le shot après.
T'as eu peur à ce moment-là. Tu t'es dit, oh non, il est blessé directement.
Ouais. J'avais un petit peu du peur. Mais non, il était bien arrivé vers nous. C'est pas facile, le situation qu'on est là. Mais pour moi, c'était vraiment bien.
Extra. Eh bien, s'il a joué, s'il a été engagé, c'est forcément parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de blessés. Alors, on va faire la liste comme à chaque épisode cette saison, finalement, vu que l'infirmerie est toujours bien remplie. Damien Brunner, blessure musculaire. Est-ce qu'il va bientôt pouvoir revenir au jeu? Damien Brunner.
C'est jour à jour pour le moment. Excuse-moi.
Sans langue de bois, Marco, il va rejouer Damien Brunner.
Mais écoute, il était pas sur la glace pendant les 3-4 dernières journées. Donc, c'est clair, il doit revenir sur la glace. Il doit faire, je pense, au moins un entraînement normal. Et puis voir où il est. Puis après, ouais, après c'est bon, mais ouais, il faut être quand même prudent aussi avec les choses musculaires. Ouais.
Autre joueur absent, Jan Derungs. Il est blessé où exactement? Est-ce que c'est grave ou pas?
C'est lower body. Et on attend l'information du club.
Okay. Jour après jour.
Jour après jour aussi. Gaëtan Haas, est-ce que c'est une commotion? Est-ce qu'on en sait plus sur sa blessure?
C'est un upper body.
Day by day.
Il va revenir la glace oui. Demain.
Okay,
et après,
jeudi.
C'est jour à jour.
Ok. Lucas Ischier, déchirure musculaire, lui aussi, retour fin novembre. D'après les dernières informations, c'est toujours ça, fin novembre pour Ischier.
Là, on est plus au détail. Il est avec l'équipe demain pour la première fois. Et après, c'est ça.
Jour après jour, après.
Jour après jour, mais plus. Non, c'est plus sérieux. Le but, c'est de. Ouais, peut-être à la fin de la semaine prochaine. Mais on ne sait vraiment pas. S'il est prêt là, il va jouer. S'il n'est pas prêt, c'est après le break.
Ok, très bien. Fabio Offert, ligament interne d'un genou. Ça, c'est fin décembre. C'est pour bien plus longtemps, on est d'accord. Mm-hmm. Alexis Eponiemi, ligament interne d'un genou, il n'a pas joué encore de la saison en match de National League. On parlait de fin novembre, donc encore un mois, c'est toujours ça?
Plus ou moins.
Très bien. Et Luca Conti, qui n'a donc pas fini le match mardi contre Zurich, vous en savez plus sur la nature de sa blessure?
Pour le moment pas, non.
J'ai oublié quelqu'un en attaque. Non, j'ai fait toute la liste, elle est déjà très longue.
En attaque, Grossman n'est pas blessé.
En défense, il y a finalement que, entre guillemets, Victor Leuve. On le sait, il s'est blessé face à Genève, ça date. Retour pour quand, pour Victor Leuve?
Ah, aussi difficile pour dire. Il est avec l'équipe, mais c'est une autre chose avec lui. Il a besoin de confiance pour lui-même au moment. Et après, c'est, à la fin, c'est lui qui va dire que ouais, je suis prêt ou pas. Mais je ne veux pas dire quelques temps, c'est trop difficile.
J'ai une question pour toi, Thomas. Lucas qui demande sur Insta. Vu le nombre de blessés à chaque début de saison, faut-il remettre en question le préparateur physique?
Ouais, non, c'est à tout de nous. C'est...
Merci, Lucas.
Non, écoute, pour ça, on est là. On est responsable pour l'équipe, on est responsable avec les joueurs, on est responsable pour les entraînements en fait, on est responsable pour les entraînements on va faire à côté du glace, au glace, et toutes les choses qui est... Les blessés qui étaient dans là, qui ont voir que ah c'était vraiment une faute de nous, c'est une chose que on veut pas. Au niveau de ça, on a deux fois upper body, on a deux fois des ligaments après une collision, on a aussi Ian Derungs avec une collision, c'était une 1 contre 1. Si on a des choses là, c'est vraiment, vraiment difficile pour les prendre avec, parce que c'est une sport au niveau assez vite et au niveau du contact. Alors, ouais. Si on a que des blessures musculaires, que ça, on peut parler ensemble, Luca. Ouais.
Mais Marco, bonne nouvelle, les gardiens, ils sont top fit, tout va bien.
Oui, pour le moment, tout va bien, ils sont top fit. Donc voilà, on espère que ça reste comme ça.
Il y a une question d'Adrien, sur Insta toujours, qui te demande, Marco, quel gardien restera à Bienne la saison prochaine?
C'est jour à jour. Hein. 50-50. Hein. On n'oublie pas qu'on peut faire du vidéo pour ça. Non, mais, jusqu'au moment, on ne sait pas. Mais voilà, ouais, je pense que ça aussi, encore une fois, c'est un problème de luxe qu'on a. Mais ouais, c'est à voir.
À clarifier pendant la pause de novembre ou bien que l'année prochaine?
Mais c'est possible qu'il y a déjà un peu des discussions à la pause de novembre. Hein. Ouais, ça fait malheureusement aussi partie du système qu'on a en Suisse, qu'on peut faire des contrats toute l'année. Voilà, c'est spécial. Il y a des autres ligues où c'est pas comme ça. C'est peut-être un peu plus facile à gérer les situations pendant la saison. Que chez nous, il y a déjà des fois en mois d'août les premières discussions. Donc ça aussi, c'est peut-être pas facile à gérer.
Mais vous allez en garder qu'un des deux.
Ouais, je pense que ça va être un peu la direction. À la fin, on verra qu'est-ce que ça donne. Hein. C'est la saison, hein, il faut encore jouer quand même, heureusement, quelques mois. Mais je pense que, ouais, honnêtement, de garder deux... de ce niveau-là, encore une saison de plus. Je pense que c'est peut-être pas réaliste, mais voilà, on peut jamais dire jamais dans ce business. Hein.
Non, moi j'ai juste une question. Est-ce que Joren Van Poelberg est un gardien qui a pour ambition d'essayer d'aller encore en NHL, ou est-ce qu'il voit plutôt son futur en Suisse? Je sais pas qu'est-ce que tu peux nous répondre là-dessus, mais je pense que c'est un point important aussi dans les décisions après du HC Bienne. C'est clair que s'il y a un gardien suisse qui se voit plutôt dans les 5 prochaines années en NHL, ça change un petit peu la manière d'envisager l'avenir.
Bah ça, je pense qu'il faudrait demander à lui-même, mais ouais, je pense qu'il a encore un œil là-dessus. Ouais, il en a encore un œil en NHL, et puis. Ouais, il est encore, pour un gardien, il est encore assez jeune, où il vient juste arriver dans les années, les meilleures années qu'on peut dire pour un gardien. Donc, c'est peut-être vrai que je pense que s'il aurait la possibilité d'aller là, c'est possible qu'il va essayer, ouais.
Messieurs, une question parce qu'il reste, on va dire, moins de 10 minutes en tout cas, hein. On est plus proche des 5 que des 10. Ça va très, très vite. Vous êtes content d'avoir accepté notre invitation. On n'a pas parlé de crise, pas parlé de l'ambiance actuelle. Vous vous en sortez bien, finalement.
Bah, pour le moment, ça va.
Bon, alors, je vais y aller avec la même question que mon confrère du Blic hier après le match. 9 défaites en 10 matchs. Ça commence à faire beaucoup, non? Non, mais est-ce qu'on, pour vous, on peut parler de crise? Ça commence à...
Oui, c'est beaucoup et on est pas content. Alors ça c'est vraiment une chose que je veux dire, que parce que je pense après, ouais, je pense que de temps en temps les gens pensent qu'on fait en exprès, non? Mais c'est pas clair. on est pas content, mais on est également content avec les jeux qu'on a joués. Après, on a joué bien Rappi, on a gagné après Overtime, ok. Ouais, peut-être on n'a pas joué au même niveau de l'année passée encore, mais c'est quoi le niveau de l'année passée? C'est un petit peu différent si on voit les détails. Les deux coachs veulent jouer un petit peu différent. Alors, ça veut dire que c'est quoi notre jeu? Peut-être ça, c'est la question. Mais après, à contre Tampere, Tapara, pour moi, c'était bien. On a marqué. On a commencé de marquer. C'était important pour nous. Lugano, c'était un bon match. C'était vraiment un bon match pour moi. On a eu 40 à 15 shoots, mais on perte. On trouvait une chemin de perte, ou on trouvait une route de perdre le match. Et aussi contre Zug, la même chose. C'était un bon match de deux tiers. Après, c'était les petites erreurs au moment. On paye avec une perte, une défaite, ou comment on dit.
Ouais, une défaite.
C'est vraiment... Et aussi contre Zurich, on a joué, pour moi, on a joué peut-être le meilleur match du saison avec l'équipe qu'on a eue. Alors, pour moi, c'est une crise si le joueur joue pas le jeu que le coach veut. Parce que là, ils sont vraiment séparés, ça fonctionne pas. Et maintenant, on a eu toujours une réaction. Oui, à la fin, c'était pas au résultat, mais le approach, les connexions, les discussions, on est ensemble. Mais avec au niveau du blessé, c'est, ouais, pour le moment, c'est vraiment une dure situation. Mais c'est pas fini.
Si on fait un peu du hockey fiction, pas de la science-fiction, du hockey fiction. Il y a encore 3, 4, 5 matchs qui ne fonctionnent pas. On arrive vraiment dans une crise. Changement de coach, les deux Finlandais, ils partent. Hein? Stoney, il a déjà donné, il ne veut plus aller à la bande. Normalement, on prend l'entraîneur assistant. Est-ce que tu es prêt à coacher une équipe en National League, Thomas Zamboni?
J'ai eu une cour à Marcolin les deux derniers jours.
Ben voilà, relation média.
J'ai parlé avec une vraiment bien sport psychologist, et il a dit que c'est au scientific, c'est prouvé de les changements du coach, c'est pour rien. OK? C'est vraiment pour rien. Mais c'est des autres choses qui fait la décision, et pour nous... On va faire les chops ensemble, et pour moi, je suis vraiment sûr qu'on va. Si on a un besoin un petit peu du temps, mais après ça, si le roule va venir, on est là, hein, on est prêt.
Il y a bientôt 10 ans, en 2014, sauf erreur, le coaching staff, c'était Kevin Schlepfer avec comme assistant Zamboni et Streit. On pourrait reformer ça, hein. Ce sera un bon trio. Schlepfer, Zamboni, Streit.
Il y a 10 ans.
Ouais, c'est en 2014, sauf erreur.
Ça passe vite, hein. Ça passe vite. Ouais, ouais, on s'appelle encore qu'il y avait un petit moment, hein, avec
ensuite, c'est Steinegger qui avait pris la place de l'assistant.
Mm-hmm. Peu avant, Marco disait avant qu'il y avait deux bons gardiens, que c'était exceptionnel, etc. Puis qu'on va peut-être pas continuer comme ça. Mais il faut quand même rappeler que c'est pas la première fois que le HCBN a deux gardiens de cette qualité. Il y avait bien Reto Berra et Marco Streit. Et Marco Streit, on a un peu tendance à l'oublier, que c'est des gardiens, les deux d'excellente qualité. Marco, tu te souviens de cette belle époque?
Ouais, c'était vraiment cool pour moi, parce que ouais, à Rapperswil, c'était fini comme ça arrive, et puis j'avais 2-3 mois où je savais pas encore où je vais finir, Et puis, il y avait une place ouverte à Bienne avec un jeune Reto Berra et puis un vieux Marco Streit, hein, il faut le dire. Et puis, ouais, ils m'ont demandé de faire un peu de backup et puis de faire aussi quelques matchs quand il y a besoin, mais d'essayer d'aider à Reto Berra de grandir. Et ben voilà, ouais, c'était bien, quoi. C'était cool.
Si on reparle de cette époque-là, de Kevin Schlepfer, une anecdote que tu m'as confiée juste avant le début de l'enregistrement. Tu es déjà venu, Marco, une fois dans ce bâtiment des médias à Bienne. Raconte-nous à quelle occasion c'était.
Ouais, c'était quand on avait un match amico ou c'était peut-être un match entre Noël et Nouvel An, je me rappelle plus exactement, mais il y avait Kevin Schlepfer comme coach et il disait ouais, il va pas faire de vidéo, le match il n'est pas assez intéressant. Et puis il y avait Télébilingue, je pense, qui a fait quand même le vidéo du match, un petit reportage. Et puis le jour d'après, le matin, la première chose qu'il dit c'est un de nous deux, Thomas ou moi, il doit aller dans le studio à chercher le stick USB du match parce qu'il veut quand même voir ça. Et puis voilà, c'était la première fois et la dernière fois que j'étais ici et j'ai eu du mal à trouver une place pour parking.
Aujourd'hui, c'était mieux.
Aujourd'hui, c'était mieux, oui.
Bien, merci messieurs. Ça passe extrêmement vite. On a encore le quiz pour conclure. On va le faire en version express. C'est parti.
Dernière tournée.
Alors, on a déjà parlé de ses liens avec Bienne, le nouveau Letton de l'équipe. Il était l'an dernier à Klagenfurt. Il était donc déjà sous les ordres de Petri et Juha. Son frère a affronté Bienne cette saison vu qu'il joue à Ostrava avec Vitkovice. On va trouver des autres liens du nouveau Letton avec le championnat de Suisse en deux petites questions. Alors, c'est un peu toujours des quiz what the fuck, impossible à trouver, mais je vais bien vous aider. On va s'intéresser à ces 14 matchs qu'il a disputés en 2016 avec les Springfield Thunderbirds, le club ferme des Blues de Saint-Louis. C'est sérieux. Donc en 2016, Rickards, on l'appelait comment son surnom, c'est
Bookie.
En 2016, Bookie, il a fait partie de la toute première équipe de Springfield, les Thunderbirds qui ont été créés cette année-là. Qui était le gardien de cette équipe-là? Vous le connaissez tous autour de la table, vous lui avez parlé, vous avez joué avec en 2016, les Thunderbirds, un des gardiens c'était... Marco, on l'a dit son nom il y a 3 minutes.
Mike Smith.
Non, on a dit son nom il y a 3 minutes. Marco, t'as joué avec lui.
Reto Berra.
Reto Berra. Eh oui, il a joué avec Reto Berra. Bookie, je vais me souvenir de son prénom. Donc, de son surnom. Bookie a joué avec Reto Berra. Bien joué, Laurent. Un point. La deuxième question, on peut après s'arrêter là, vu le timing. Il a aussi partagé le vestiaire avec un joueur de Zurich qui a marqué mardi soir. Toujours au Thunderbird, s'il y avait...
Bah, c'était le but gagnant pour Zurich ou bien en overtime.
Ouais, exactement.
J'aime pas le parler, ça.
C'était Juha Lamiko, c'est vrai. Il était aussi au sein de cette équipe. Il y avait aussi Tim Boson dans l'équipe à l'époque. Il y avait aussi Denis Malgin, mais pas au même moment que Bookie. Ils se sont croisés. Voilà pour les petites anecdotes à sortir à Bookie maintenant que vous le croiserez dans les vestiaires de la Tissot Arena. 40. Il y en a un peu plus que 5 minutes, on est déjà au bout de cet épisode, ça allait très très vite, vous ne regrettez pas, toujours pas d'avoir dit oui. Thomas, tu disais que tu as essayé par tous les moyens de trouver une excuse pour pas venir, finalement ça va.
J'ai rien compris.
On recommence en allemand maintenant. Non, ça va? Vous vous en êtes bien sorti?
Ouais, c'était mieux, le français était mieux avec le bien de Laurent.
Quel vin? Il n'y a pas de vin.
Il n'y a pas de vin.
J'ai eu une grande bière.
Eh bien, merci beaucoup, Marco. Merci, Thomas, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir à notre micro. Belle suite de saison à vous. Merci Cyril, merci Laurent, c'est passé extrêmement vite ce soir. Merci à vous qui nous écoutez, qui êtes nombreux d'ailleurs à nous écrire, ça fait super plaisir. Petite dédicace à Hugo qui nous a écrit récemment en disant « Un pur régal de vous entendre à chaque fois, même en étant fan de Fribourg ». Voilà, merci Hugo, comme quoi pas besoin d'être fan de Bienne pour écouter la Stammtisch. Suivez-nous sur Insta, sur Spotify, sur la plateforme de votre choix. Envoyez-nous vos feedbacks et vos questions. À dans 2 semaines, bye bye.
Ciao tout le monde.
Ciao. Merci, ciao.
Merci, salut.
C'était la Stammtisch, toute l'actu du HC Bienne proposée par Ajour, RJB et le Journal du Jura.